Merci beaucoup. Je remercie rapidement de l'invitation pour ne pas tirer trop sur la montre. Et puis je vais croiser certains points, bon, ça c'est le lot de celui qui parle, le quatrième. Certains points déjà abordés, mais peut-être d'un autre point de vue. Alors je voudrais partir de ce qui, selon moi, constitue, peut-être pas l'origine, peut-être que si, mais en tout cas peut-être le foyer philosophique de l'ouvrage. Ce foyer me semble constitué par ce qui donne sa matière au chapitre 3, intitulé « Juridicité ». Après avoir rappelé en quoi consiste ce foyer, je tenterai de justifier le statut focal que je lui attribue, c'est-à-dire que j'essaierai de montrer en quoi les grandes propositions avancées dans les trois autres chapitres du livre, qui marquent à chaque fois une certaine rupture avec une interprétation traditionnelle du kantisme pratique, peuvent être considérées comme des moments de déploiement de cette thèse défendue dans le chapitre 3. Cette reconstruction, bon, elle sera évidemment seulement partielle, hein, c'est pour essayer de cerner l'intention de l'essai. Dans un second temps, je reviendrai sur cette thèse fondamentale, non pas pour la discuter, non pas même pour la nuancer, parce que selon moi, elle n'appelle pas de gestes de ce genre, mais je voudrais simplement la contextualiser à l'intérieur du procès d'invention du kantisme pratique, et ces très brèves, évidemment, considérations génétiques auront des conséquences toutefois herméneutiques qui me conduiront à discuter en partie l'interprétation générale qui, je crois, se dessine à l'horizon ou à l'arrière-plan de la raison des normes. Et ça me conduira à poser deux questions à l'auteur. Alors, il me semble qu'on peut spécifier cette interprétation générale comme une lecture métaphysiquement économe ou sobre ou déflationniste, comme j'ai déjà entendu cette épithète, de la philosophie pratique qui serait fondée sur l'importance qu'il conviendrait d'accorder à la mise en évidence par Kant d'une pureté juridique du droit comme telle. Alors, c'est le chapitre 3 qui défend cette thèse fondamentale. Kant produit ce qu'on pourrait appeler une théorie pure du droit, au sens où il produit une théorie de sa pureté juridique. Kant, ou plutôt le Kant de la maturité, en matière de philosophie pratique, c'est-à-dire le Kant des années 1790, récuse avec force toute confusion de l'éthique, éthique, et du droit, recht, qui sont les deux espèces de la morale, morale, elle-même comprise comme système de tous les devoirs en général. Alors, on l'a déjà dit. Cette autonomie du juridique au sein du moral, telle que Kant la thématise, elle peut se marquer de bien des points de vue. Je rappelle simplement qu'il me semble qu'elle tient fondamentalement à la spécificité de l'objet du droit, qu'on peut dire pragmatique, en un sens non kantien. Le droit ne statue ni sur les maximes de l'action, ni sur les ressorts subjectifs de l'agir, mais seulement sur la légalité de l'action elle-même, en tant qu'elle ne doit jamais faire pièce à la compossibilité des libertés extérieures. Alors de cette spécificité matérielle découle sa spécificité formelle, qui est fondamentalement la possible extériorité d'une législation juridique légitimement assortie de contraintes. Alors sur ce point, la thèse qui est défendue par Jean-François Kervégan, thèse d'une reconnaissance kantienne de l'autonomie du juridique comme espèce à part entière de la morale, me semble indiscutable, comme il est indiscutable qu'il s'agit d'une thèse du Kant de la maturité, théorie et pratique en 1793, pour la perpétuelle en 1795, la métaphysique des mœurs en 1797, insiste avec netteté et récurrence sur l'autonomie de ce que Kant appelle la raison juridiquement pratique ou encore la raison juridiquement législatrice pure. Et cette insistance, c'est celle d'une certaine manière d'un repentir au sens pictural, si on veut du terme, puisqu'elle est une insistance à corriger la métonymie que l'on rencontre dans les textes des années 1780. En 1785, dans la Fondation, Métaphysique der Sitten, ou morale, désigne la seule partie pure de l'éthique, ou Sittenlehre, ou Sittliche Weltweisheit, ou morale philosophie, ce qui ne laisse en apparence aucune place pour le droit, considéré en sa spécificité. De cette autonomie du juridique, on peut dès lors régresser à la question de la liberté, puisque la philosophie morale en général, c'est la philosophie des lois de cette liberté. Or, la liberté sur laquelle statue le droit, en vertu de son objet pragmatique, c'est d'abord celle de l'arbitre, c'est-à-dire de la faculté de choix conscient, que le droit implique de considérer comme un arbitre libre, c'est-à-dire susceptible d'une autodétermination rationnelle. En termes kantiens, la liberté que le droit considère, c'est la liberté pratique, telle que la critique de la raison pure, en tout cas, la circonscrit. Et dans ces conditions, il n'y aurait guère de hasard à ce que l'élaboration forte du concept d'arbitre par Kant, dans la religion, comme il a été dit, en 1792, première partie de la religion, soit strictement contemporaine de l'invention kantienne de la pureté juridique du droit. Il semble donc que si on considère la logique conceptuelle qui préside à l'élaboration de l'ouvrage, c'est peut-être de prendre au sérieux la défense kantienne de la juridicité du droit que Jean-François Kervégan est conduit dans son chapitre 1 à tenter de tirer au clair la conception kantienne de la liberté et notamment de l'arbitre. Or, la liberté de l'arbitre peut sembler métaphysiquement plus économe que la liberté transcendantale telle que la critique de la raison pure la thématise, en tant qu'elle n'engage pas, comme telle du moins, une dimension non naturelle ou suprasensible de l'agent. Autrement dit, la pleine reconnaissance de l'autonomie normative du droit autoriserait une sobriété métaphysique majorée sur la question de la liberté. Par ailleurs, la spécification du genre moral en éthique et droit permet de circonscrire l'essence de la normativité rationnelle pratique comme stricte exigence d'universalisabilité. Et Jean-François Kervégan a le mérite, dans son chapitre 2, de mettre en pleine lumière ce qu'une focalisation des discussions du kantisme sur la nature formelle de l'impératif catégorique a parfois l'inconvénient de laisser dans l'ombre. Cette question, c'est celle de la matière qu'il convient de mesurer à cette exigence d'universalisabilité. Car si l'exigence est formelle, cette forme n'est pas close. La forme, qui se réduit donc aux deux dimensions quantitatives et modales de l'universalité et de la nécessité, n'a de sens qu'à être la forme d'un contenu, et vous montrer que la matière qui a vocation à être testée quant à sa légitimité est elle-même d'une certaine manière une matière normative, une prétention à la normativité incarnée par telle ou telle maxime. Et donc, on passerait d'une thèse sur l'autonomie du droit au sein de la morale à l'affirmation d'une ouverture de la normativité morale en général, même si, c'est une question qui a été posée, cela vaut peut-être en fait surtout de l'éthique, puisqu'au fond, le droit ne connaît pas les maximes, il ne connaît que les actions, et c'est pourquoi peut-être on peut avoir un système déductif du droit, mais non pas de l'éthique. Enfin, ça c'est un passage. En tout cas, le test de l'universalisation possible s'applique toujours à déterminer la légitimité de ce qui constitue une prétention normative déjà là, et dont la question est en effet de savoir alors d'où elle vient. En tout cas, la formalité de la morale ne signifie pas une clôture à l'égard de la réalité de la normativité dans ce qu'elle a de constitutivement impur aussi bien que de conflictuel. L'autonomie du juridique, qui autorise donc une certaine sobriété métaphysique et qui contribue à marquer une sorte de priorité matérielle des prétentions normatives concrètes sur la formule qui permet de tester leur légitimité, recommande enfin l'histoire au regard du philosophe, car l'histoire, comme philosophème, c'est d'abord pour Kant l'historicité juridico-politique. Mais l'histoire, c'est alors d'abord, selon l'auteur, une détermination anthropologique qui relève de la philosophie normative appliquée davantage que d'une métaphysique. C'est-à-dire que le philosophème histoire est chez Kant étranger à toute philosophie de l'histoire entendue au sens kantien du terme de philosophie, le système a priori d'un advenir temporel qui tirerait sa nécessité d'être celui de ce qui au fond ne serait pas temporel. Sinon, prendre au sérieux l'histoire, c'est peut-être contester la possibilité même d'en faire une philosophie, en ce sens-là. C'est le chapitre 4 qui défend ce point de vue. Je reviens maintenant sur ce qui constitue, donc à mon sens, le foyer de l'ouvrage, cette question d'une thèse kantienne concernant l'originalité normative du droit. Ce point me semble indiscutable, comme je viens de le rappeler, et l'ouvrage montre au fond comment il est fécond, si on le traite comme un foyer, ce que je tente comme hypothèse. Mais je voudrais interroger rapidement cette invention kantienne d'une autonomie du droit quant à sa nature, quant à sa signification, quant à sa motivation, je rassure, ça ira très vite à chaque fois, et quant à ses conséquences philosophiques générales. quant à sa nature d'abord. Donc, la thématisation kantienne d'une originalité normative du droit est datée des années 1790, mais la question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une véritable rupture. Et, à mon sens, il est permis d'en douter au vu de certains textes non publiés de Kant, et notamment, si l'on regarde des leçons sur le droit naturel qu'il professe en 1784, c'est-à-dire précisément au moment où il rédige la fondation qui opère cette métonymie sur laquelle il revient ensuite, si l'on regarde ces leçons, on voit que Kant est très tôt en possession d'une conceptualité juridico-politique particulièrement aboutie. Dans ses leçons, il élabore des concepts et soutient des thèses qui sont très comparables à ce qu'on trouve en 1790, dans les années 1790. C'est-à-dire que jusque-là, si le droit, en quelque sorte, brille par son absence dans l'œuvre publiée, ce n'est pas tant l'effet d'une thèse le concernant que l'effet d'une non-thèse le concernant, à mon avis. C'est-à-dire que la place systématique du droit est en fait relativement indéterminée, en même temps que l'articulation conceptuelle de sa législation et de la législation éthique n'est pas complètement précisée, parce que ce n'est pas en fait véritablement thématisé. Donc ce serait moins une rupture que... Alors, mais si c'est moins une rupture d'ordre thétique dans les thèses qu'une innovation, certes réelle, due à une première thématisation, on peut s'interroger sur la signification, du coup, de cette innovation. Alors, vous en proposez une interprétation fichtéenne, explicitement fichtéenne, c'est-à-dire que thématiser la spécificité morale du droit, ce serait revenir sur sa confusion d'avec l'éthique. Proclamer l'autonomie du droit, ce serait le résultat d'une autonomisation à l'égard de l'éthique. Ou encore, l'autonomie du droit sanctionnerait une déséthicisation de ce droit. Or, si on adopte un point de vue non pas externe, fichtéen, donc, mais interne, l'innovation pourrait recevoir une autre signification. Avant l'année 1790, les années 1790, le droit n'est pas présent dans la philosophie kantienne sur le mode de son identification à l'éthique. Jusque-là, le droit est au fond absent. C'est-à-dire que Kant n'aurait pas d'abord identifié le droit à l'éthique, pour revenir ensuite sur cette identification. Kant aurait d'abord eu tendance à identifier la morale dans son ensemble à l'éthique, en reléguant au fond hors de la morale le droit. Et donc l'extension de la morale au-delà de l'éthique, qu'on trouve dans les années 1790, enregistrerait en fait l'intégration du droit à la morale, c'est-à-dire la promotion du droit au rang d'authentique sphère de la rationalité pratique pure. On aurait donc moins une déséthicisation du droit qu'une moralisation du droit. Mais alors on peut s'interroger sur la motivation de ce geste. Kant ne la renseigne nulle part, donc c'est de la génétique fiction, mais bon, pourquoi pas. Vous évoquez, cette fois en adoptant un point de vue hegelien, une possible réaction à l'histoire, c'est-à-dire qu'au vu des excès de la Révolution française et d'une éthicisation terroriste du droit, Kant aurait pris conscience de la nécessité de mettre au net les concepts moraux en neutralisant éthiquement le juridique. Mais si le motif de l'autonomie du droit sanctionne en fait plutôt une promotion rationnelle du droit qu'une neutralisation éthique du droit, peut-être que le rapport au temps pourrait être de qualité inverse, c'est-à-dire que peut-être que la décision d'écrire sur le droit dans les années 1790 et pas avant, l'élévation normative du droit qui est contemporaine, répondrait au contraire à un enthousiasme jamais démenti de Kant pour les événements de France, en même temps que la politique réactionnaire mise en œuvre dans le même temps par Frédéric Guillaume II en Prusse ne pouvait que faire ressortir la signification proprement essentielle du droit pour la raison et pour la liberté. Donc ça accentuerait autrement les choses. J'en viens maintenant aux deux conséquences philosophiques générales. Quelle interprétation de la philosophie pratique de Kant peut être à l'horizon de cette thèse d'une autonomie juridique en matière de philosophie pratique? La question est de savoir si ça peut soutenir une lecture métaphysiquement sobre ou économe que de mettre l'accent sur ce point. Mais peut-être que on contestera que ce soit l'intention. Mais en effet, la philosophie kantienne du droit se revendique explicitement, c'est son nom, de métaphysique des rechts, métaphysique du droit. métaphysique, chez Kant, ça peut avoir deux sens. Désigner le caractère a priori de la connaissance, et ça peut aussi avoir un sens quant au contenu qui fait référence au suprasensible. Et au fond, l'idée que je voudrais soumettre, c'est est-ce que la métaphysique du droit n'est pas une métaphysique en bonne et due forme et au double sens, au fond, que Kant donne à ce terme. C'est-à-dire, quant au premier point, le caractère a priori, là je vais être rapide puisque je retrouve un point qu'on a déjà plusieurs fois rencontré, c'est-à-dire cette question d'un Kant proto-positiviste juridique. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit, et en fait, vous avez déjà répondu à cette question en disant que, bien sûr, Kant entre dans la catégorie du droit rationnel moderne. Il le revendique explicitement plusieurs fois. Et en ce sens, il n'est donc pas positiviste. Mais est-ce qu'on peut en faire un proto quand même? C'est-à-dire, parce que positiviste juridique, il me semble que c'est une expression qui peut être équivoque au sens où on peut l'entendre soit comme le fait d'assumer une distinction radicale entre le droit et l'éthique, soit l'entendre comme une thèse qui identifie le seul droit pertinent et le droit historique. Or, pour un positiviste au sens 2, on ne peut pas être positiviste au sens 1, puisque dès lors que l'on fait référence à autre chose que le droit historique, et qu'on en appelle à l'a priori, eh bien on dérive le droit d'autre chose que de lui-même, puisque par définition il n'est qu'empirique. Et donc l'enjeu, quand on dit quand même proto, c'est que le danger, c'est peut-être qu'on efface la question fondamentale, lorsque l'on parle de positivisme juridique, est-ce que ce qui n'est pas en jeu, c'est d'abord une conception du droit. Qu'est-ce qui est droit? Enfin, que signifie droit? C'est une question. Bon. Mais j'en viens maintenant pour finir au deuxième point. Est-ce que cette philosophie kantienne du droit peut être, au fond, métaphysiquement sobre? Alors, certes, l'objet, donc, je le disais, exclusivement pragmatique du droit, la restriction de la législation juridique à la légalité des actions, tout cela fait que, à l'intérieur de la sphère juridique, il n'y a nul besoin de faire référence à une théorie du suprasensible métaphysiquement bien coûteuse. Mais la question de la neutralité, si on veut, métaphysique du juridique, se pose peut-être du point de vue kantien de manière principielle, sinon de manière interne. Parce que, et là je retrouverai peut-être certains points abordés par Catherine tout à l'heure, pour que quelque chose de tel que le droit ait un sens, il faut pour Kant que l'on ait affaire à des personnes. Des personnes, ce sont des êtres auxquels leurs actions sont imputables, en un sens très fort, imputabilité qui suppose qu'elles soient libres, en un sens, là encore, absolu, c'est-à-dire strict, c'est-à-dire transcendantal, cette équation se retrouvant en différents endroits. Et donc, est-ce que cette métaphysique du droit que produit Kant, qui demeure adossée à une métaphysique forte de la liberté, peut-elle véritablement être la marque de la possibilité d'un discours philosophique sur le droit qui soit métaphysiquement sobre? C'est ma première question. Et dernier point, est-ce que cette relative sobriété métaphysique de la doctrine kantienne du droit ne fragilise pas l'affirmation du caractère absolu de l'autonomie du droit, tel que Kant le pense, par rapport à l'éthique? Car cette liberté, au sens strict, au sens absolu, au sens transcendantal, sans laquelle il n'y a pas de personnalité, et donc pas davantage de droit, qui est un sens, selon Kant, cette liberté ne s'annonce à nous que depuis l'impératif moral, spécifiquement entendu comme impératif éthique. Puisque c'est seul l'impératif éthique qui, exigeant que l'on puisse agir par simple respect pour la loi, et donc indépendamment de toute motivation sensible ou pathologique comme on voudra, c'est seul l'impératif catégorique comme impératif éthique qui nous permet, selon Kant, de conclure que nous sommes libres au sens le plus strict, c'est-à-dire au sens absolu. Autrement dit, si certes, il n'y a pas de hiérarchie entre droit et éthique. Si, certes, il y a une indépendance et une homologie, au fond, entre les deux ordres, est-ce que chez Kant ne demeure pas présent un primat architectonique, si on veut, de l'éthique sur le droit? C'est la seconde question.
Je réponds alors très rapidement parce que il y a des choses tellement denses et lourdes dans le propos d'Antoine Grandjean, qui est un connaisseur exceptionnel de l'œuvre de Kant, qui l'a déjà trouvé dans ses écrits, qu'il m'est difficile comme ça d'improviser des réponses argumentées et précises à ces questions. Je reviens juste sur un point, deux points. Tout d'abord, oui, c'est probablement vrai. La correction de mon propos dans le sens où la place accrue faite au droit dans les écrits des années 1790 ne signifie pas tant une modification du rapport entre droit et éthique à l'intérieur de la sphère de la moralité qu'à une intégration de ce qui auparavant en était exclu. Ce qui pose quand même problème. Comment pour Kant le droit, alors qu'il connaît très bien, enfin il a lu Wolff, il a lu les classiques, si je puis dire, il sait très bien l'importance qu'avait le droit et qu'avaient les théories du droit naturel, etc. Et puis en même temps, parce que quand tu dis que déjà dans les cours sur le droit, ils sont en place certains des éléments, mais qu'il n'a pas publié, qui vont se retrouver dans les années 90, bon, ça amène à relativiser les choses. Conscience nouvelle de ce que le droit a une dignité normative grande, je suis tout à fait d'accord. Mais la question fondamentale, et elle m'interpelle vraiment, comme on dit, c'est la manière dont le droit est thématisé dans les années 90, donc chez le dernier Kant, si l'on veut, est compatible avec cette sobriété métaphysique que je lui attribue, notamment à partir de l'analyse du concept de liberté. C'est une question extrêmement lourde. J'aurais tendance à répondre oui quand même, en dépit des objections, dans la mesure où, mais là il faudrait vraiment reprendre les choses à fond et de très près, dans la mesure où il me semble que le concept de liberté lui-même, qui est quand même le cœur de cette métaphysique, subit des évolutions extrêmement importantes. Tu as dit, bon, la liberté au sens strict, c'est la liberté transcendantale, mais est-ce que la liberté transcendantale conserve le même sens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu le sentiment, à travers ces formules de la métaphysique des mœurs que j'ai citées tout à l'heure, qu'il y avait quand même que ça avait terriblement bougé par rapport à la critique de la raison pure et à 1781. Une première fois, bien sûr, la critique de la raison pratique, avec la reconnaissance de la pleine puissance normative de la raison. C'est très vieux, l'article de Guéroux sur canon de la raison pure et critique de la raison pratique, qui montrait les réaménagements qui étaient intervenus dans la conception même de la place de la philosophie pratique par rapport au dessin d'ensemble de la philosophie. Et aussi, dans un deuxième temps, moi j'ai le sentiment que le concept de liberté lui-même, d'où l'attention que j'ai portée en particulier à la religion dans les limites de la simple raison, j'ai eu le sentiment que dans ces textes, et c'est répercuté ensuite dans la conception du droit, il y avait une évolution profonde du concept de liberté qui s'était esquissé. Maintenant, je reconnais que c'est discutable, comme toute thèse philosophique, et je te remercie beaucoup de ces suggestions qui vont continuer à me faire réfléchir. Merci.
Est-ce que je peux poser une petite question?
Président.
Tu trouves que la notion de vincure, c'est métaphysiquement léger? Ça suppose quand même, comme dirait l'autre, qu'il y a un empire dans un empire. L'autre d'ailleurs, qui est dont la thèse générale sur le droit, c'est qu'on a inventé la notion de libre arbitre pour pouvoir mettre les gens en prison. C'est la thèse de Spinoza.
Pour pouvoir mettre les gens en prison.
Oui, c'est peut-être ce qui se passe chez Kant. Tu trouves que c'est léger, le libre arbitre, comme tu dis.
C'est le droit de parler.
C'est une incitation. Non, non, c'est pas léger, mais simplement, c'est peut-être un peu moins lourd que les Freierville, la volonté libre.
Ça reste à voir.
Ce qui m'a motivé à écrire ça, c'était cette phrase incroyable à laquelle je n'avais pas prêté suffisamment attention, à laquelle on ne prête pas suffisamment attention. Apprendre les choses strictement, c'est comme qu'il écrit, la volonté n'est ni libre ni non libre. C'est quand même une affirmation qui... c'est ça qui m'a déterminé en disant...
Et seul l'arbitre peut être libre.
Et seul l'arbitre peut être libre, etc. Alors effectivement, ce n'est pas rien.
Mais seul l'arbitre peut être serf aussi.
Peut-être
serf. Bien sûr.
S'il peut être libre, il peut aussi être serf.
Mais à certaines conditions métaphysiquement dictées, la volonté peut être bonne ou autre chose que bonne. Donc, au fond, elle est quand même exposée à...
Ben justement, le concept de volonté bonne dans la métaphysique des mœurs disparaît. Ouais. Puisque la volonté n'est finalement rien d'autre que l'exercice de la rationalité qui permet de déterminer l'arbitre à faire les bons choix, si je puis dire, et pas les mauvais.